Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Cette semaine dans Ribine, un reportage de Tiffaine Dorgère avec Aurélie Sanguet sur une compagnie qu'on a déjà croisée sur notre antenne. Une compagnie qui croise beaucoup les épées, mais aussi les bâtons, les fleurets, les haches nobles et bien d'autres armes historiques. Dagorlad est une compagnie d'arts martiaux historiques européens fondée à Pont-de-Buis, les Khmers, il y a près de 20 ans. Ses membres pratiquent concrètement les combats avec des armes factices, rassurez-vous. Mais ils et elles pratiquent au plus près de l'histoire, de ce qu'on sait des combats grâce aux traités et parfois grâce à l'archéologie. Ils et elles explorent aussi, pour remonter le temps, des gestes, des postures. Il faut donc avoir un cerveau et un corps en bon état pour pratiquer les AMHE. Et il faut aussi beaucoup s'entraîner. Cette semaine, Tiffaine et Aurélie nous plongent donc dans le stage organisé en février 2026 avec d'autres compagnies venues d'ailleurs. On y met du cœur, du savoir et même de l'art.
Nous sommes aujourd'hui au stage de Dagorlad, un stage d'AMHE à Pont-de-Buis-les-Khmers, dans la salle polyvalente. Qu'est-ce que c'est que les AMHE, Anne-Charlotte ?
Alors, les AMHE, pour faire court, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas, on va dire c'est de l'escrime ancienne. Sauf que c'est pas vraiment ça. Les AMHE, donc arts martiaux historiques européens, c'est vraiment à la croisée entre les études des manuscrits ou des iconos laissés par les anciens maîtres d'armes, donc de l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale, d'accord, et la pratique sportive moderne. C'est-à-dire que nous allons rechercher, à travers les manuscrits laissés par les anciens maîtres d'armes, toutes les armes, de la dague, la lutte, passant par les épées, jusqu'aux armes d'astes, type lance, halbarde ou pertuisane. Et nous allons essayer de retrouver le geste. Mais nous ne serons pas en tenue historique, nous serons vraiment en tenue moderne. Masque, gants, veste d'escrime, etc.
Donc Dagorlad s'entraîne déjà 3 fois par semaine, le mercredi soir, le jeudi soir et le dimanche matin dans cette même salle. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que ce week-end, sur 2 jours donc, il y a des ateliers qui sont proposés. Des personnes qui viennent de toute la France et même au-delà, pour venir assister à des ateliers qui sont proposés par des personnes d'ici comme toi, puisque tu proposes un atelier, mais aussi des personnes qui viennent de Belgique et d'Allemagne, et que nous aurons l'occasion d'interroger juste après pour l'émission. Alors toi, tu vas faire donc un atelier. Peux-tu nous en dire plus sur ton atelier ?
Alors moi, je vais faire un atelier sur la canne 19e, mais au-delà de la canne 19e type défense de rue, hein, parce qu'à cette époque-ci, il y avait quand même déjà la notion de jeu. Donc on va aller chercher le sport, toucher l'adversaire, non pas pour le tuer ou le blesser, mais pour vraiment le côté sportif. Mais on avait également la partie défense de rue, où là, c'était vraiment pour se protéger sa vie. Donc là, moi, ce que je vais proposer comme atelier de canne, ça va être comment optimiser son jeu, parce que la canne, c'est une arme qui paraît inoffensive comme ça, mais qui est très très rapide. On n'a pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, c'est automatisé à travers ce qu'on va appeler des drills, donc des enchaînements codifiés avec attaque, parade, riposte et on tourne. Et vraiment automatiser ce geste de défense et d'attaque dans la foulée pour qu'à la fin, on n'ait plus à réfléchir du tout sur ce qu'on va faire. Et finalement, automatiser les parades pour pouvoir vraiment se concentrer sur « il faut que j'incapacite mon adversaire ». Bon, on ne va pas incapaciter les copains, sinon, comme on dit, on n'a plus de copains, mais vraiment pouvoir ici mettre sa touche et mettre son point.
Donc toi, tu vas présenter donc la canne. Est-ce que quand on entend canne, c'est vraiment la canne qu'on utilisait pour s'aider à marcher ? Est-ce que toutes les personnes qui avaient une canne savaient se défendre avec ou pas ?
Alors, c'est vraiment la canne qu'on entend. Hein, c'est pas la canne de papy et mamie d'aujourd'hui. Hein. Désolée pour nos anciens, c'était vraiment la canne. La canne, justement, pour s'aider à marcher, ou la canne, telle que vous pouvez l'imaginer, hein, du bourgeois ou du noble qui se promène avec sa canne, avec un poumon ouvragé. Est-ce que tous savaient l'utiliser ? l'ai quand même fortement encouragé. On va dire dans certaines villes, pour ne pas nommer comme Paris, il y avait quand même des gangs de voyous, de vilains garçons qu'on appelait apaches, qui eux ne se gênaient pas pour avoir des couteaux, pouvoir se battre à coups de poing, etc. Donc en fait, au 19e, il était quand même de bon ton, et c'était encouragé aussi de pratiquer quand même la self-défense, que ce soit même pour les hommes ou pour les femmes. La self-défense féminine a commencé aussi à se développer à ce moment-là, pour pouvoir justement s'auto-protéger, s'auto-défendre face à une attaque quelconque.
Tu es aussi instructrice dans la compagnie d'Agorlad. Depuis combien de temps, toi, tu fais de la MHE ?
Il y a des choses qui fâchent, là. Alors, moi, j'ai commencé les AMHE en 2017. Donc, à partir de septembre, je rentrerai dans ma 10e année de pratique. C'est un sport dans lequel je suis tombée dedans. Et maintenant, je n'arrêterai pas. Et même le but, c'est de pouvoir continuer jusqu'à la maison de retraite. Et de pouvoir continuer à jouer de la canne, par exemple, avec les anciens. Mais c'est un sport, en fait, où finalement, la pratique en fait, sportive, on peut l'adapter. Soit on va être à des pratiques sportives de type compétition, donc très intense, avec préparation physique, etc. Ou alors à des pratiques beaucoup plus, dire, tranquilles, chill, où là, on va aller rechercher justement le geste ou les manuscrits laissés justement par les anciens et retrouver ce geste-là. Et il y a une pratique un peu intermédiaire, qui là est ma pratique, où on va aller chercher à la fois le côté pratique sportive, à la fois le beau geste, rechercher le beau geste, et vraiment on va adapter l'intensité, et aussi en fonction de la forme. C'est-à-dire, après presque 10 ans, le corps vieillit aussi. Donc finalement, j'ai plus du tout la même pratique. À mes débuts, j'avais plus la forme, etc. Là, j'ai quelques blessures qui traînent, qui refusent de soigner. J'ai continué, mais j'ai adapté ma pratique, finalement. Et on voit bien au sein de Dagorlad, la compagnie Dagorlad, ça va des enfants à la lutte, des jeunes adolescents, jusqu'à des personnes de plus de 60 ans. Et finalement, tout le monde arrive à trouver sa pratique et son juste milieu de pratique.
Et d'ailleurs, c'est important de dire effectivement qu'il y a de tous les âges à Dagorlad, mais que la parité est quand même pas mal là. Il y a beaucoup de femmes, presque autant que d'hommes, dans notre club. Alors, nous avons parlé du fait que tu seras animatrice pour ce stage-là, juste après, que tu es aussi instructrice à la compagnie Dagorlad à Pont-de-Ville-et-Quimère, mais tu es également instructrice à Brest à MHE. Et tu sais utiliser une variété d'armes. Tu peux nous en dire plus sur toutes ces armes que tu utilises ?
Oula, pas où commencer. On va commencer peut-être par la maison qui est Dagorlad. Donc effectivement, je suis instructrice d'épée de côté à Dagorlad. Pour ne pas m'étendre sur le sujet, l'épée de côté, c'est de l'épée Renaissance italienne. Plutôt de type Bologne-Florence, et qui se pratique à l'épée seule ou avec une main gauche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va prendre trop de temps. Mais effectivement aussi, j'interviens sur le club de Brest en tant qu'animatrice d'épée longue, cette fois-ci. Donc épée longue germanique, plutôt de type Meyer ou Lichtenauer, qui sont 2 mètres 1, on va dire, pour l'escrime, pour la vie qui est Lichtenauer. C'est-à-dire, là, on va apprendre à se défendre, vraiment, et jouer sa vie. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est juste pour aller chercher vraiment la touche plus efficacement. Et Meyer, qui est un maître d'armes aussi germanique, qui est plus tardif. Et qui lui va faire de l'escrime, d'épée longue pour le jeu. Et finalement, dans mon sac d'armes, j'ai une variété d'armes effectivement assez conséquente. Il commence à peser son poids. Et dedans, donc, on retrouve forcément des épées de côté, une épée longue, des sabres aussi, une rapière. Des cannes, différents types de ce qu'on va appeler main gauche. Donc je vais à la fois avoir une rotella, donc qui est un très grand bouclier. J'ai également une petite bocle, j'ai une grande bocle, qui sont des petits ou grands boucliers qui se pratiquent à une main, plus des dagues, plus des mains gauches en dagues. Bref, oui, non, il pèse son poids et beaucoup trop de pratique. Et de la canne, bien entendu. Donc finalement, ce que je peux dire, c'est que je vais avoir 3 armes principales que je vais vraiment travailler et développer.
Alors Anne-Charlotte, tu es aussi à la fédération d'AMHE. Donc il y a bien une fédération qui encadre l'AMHE. Dis-nous en plus, à quoi sert cette fédération? Qu'est-ce qu'on y fait? Quel est ton rôle?
Alors, pour l'instant, la Fédération des arts martiaux historo-européens, donc, pour l'instant, est une association d'associations. Par la suite, à terme, un jour, on espère que ça deviendra une véritable fédération telle qu'on l'entend pour le foot ou l'équitation ou n'importe quel sport dédié au ministère des Sports. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais ça fait quand même, on a fêté les 10 ans il y a 2-3 ans déjà. Donc, elle est là quand même depuis vraiment le développement de cette pratique-là. Aujourd'hui, on est quand même plus de 2000 licenciés, presque 3000. Certes, on parlait de la parité. Pour l'instant, on a du mal encore à décoller de plus de 20% de la part féminine. Mais on a énormément de projets quand même sur lesquels on travaille pour, d'un, développer notre pratique, que ce soit sur la scène compétitive, la scène aussi, les gens reconnaissent et découvrent notre pratique. Ce n'est pas juste des gens qui se battent avec deux bouts de métal comme des brutes et qui ne ressemblent à rien. Vraiment promouvoir aussi ce côté histoire, en fait, et histoire vivante, qui nous tient vraiment à cœur, et comme quoi, en fait, on a à apprendre des anciens. Et aussi, il y a ce côté-là fédérateur, en fait, finalement. Parce que même si, au niveau international, on parle pas tous la même langue, on arrive quand même à se comprendre à travers nos pratiques. Et en fait, finalement, ça devient aussi des amis. La fédération, c'est la communauté plus officielle, en fait, des AMHE. On essaye d'être organisé, d'avoir des plans de développement aussi de la pratique, encadrer aussi cette pratique-là, que ce soit d'un point de vue sécuritaire, réglementaire, cadrer aussi les compétitions, finalement aussi, comment on va jouer tous ensemble sur des règles communes, établies, mais également aussi travailler sur comment amener, par exemple, plus de pratiquantes à venir tester, comment garder aussi les pratiquants, aider les clubs aussi dans leur développement, former aussi les animateurs et bientôt les instructeurs aussi. Le travail est vraiment très vaste, on n'a pas fini. Le CA et le bureau et les commissions, les différentes commissions aussi de la fédération font un énorme travail en sous-marin.
Ah, toi, tu m'as touché quand même.
Je suis avec Frédéric, président de l'association. Je me demandais déjà pourquoi faire un stage d'AMHE à Pont-de-Buis.
Alors, il faudra revenir déjà un peu à la jeunesse du club, mais le club existe depuis 2007 ou 2008. Il y a toujours eu la volonté de partager et d'échanger le plus possible avec d'autres AMHEurs et d'autres clubs. Et donc depuis, là c'est notre 11e édition, l'idée c'est de pouvoir organiser localement pour les clubs de l'Ouest breton et pas que, faire venir des animateurs qui viennent d'un petit peu partout de France et d'Europe et de proposer des choses qu'on ne voit pas forcément ou des interprétations qu'on ne voit pas forcément et permettre d'avoir une vision plus globale et avec d'autres regards sur nos pratiques et les armes qu'on peut utiliser. Ou voir de la découverte de nouvelles armes et de nouveaux traités qu'on ne connaît pas forcément. Donc, un stage à Pont-de-Buis.
Pour réaliser un stage comme celui-ci, quels sont les préparatifs? Combien de temps ça prend? Est-ce que tu as des conseils peut-être ou des retours d'expérience dont tu voudrais parler?
Alors, l'organisation d'un événement comme ça, comme dans tous les sports, je pense, mais ça prend évidemment du temps en amont. On a un travail qui va être du recrutement d'animateurs. Il va y avoir aussi toute une part de communication pour pouvoir tirer les gens à venir s'inscrire. Il va y avoir toute la partie aussi qui est purement logistique, la nourriture, quel traiteur on prend, comment on travaille là-dessus, etc. Je veux dire que globalement, pour organiser un stage comme ça, il faut s'y prendre entre 4 et 6 mois en avance, notamment sur la partie animation. Conseil que j'aurais à donner, constituez-vous une équipe pas forcément pléthorique, mais sur qui vous pouvez avoir confiance. 4-5 personnes, partagez-vous les tâches. Ce qui est difficile, c'est de déléguer. Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours eu un peu de difficulté parce que quand on est pris dans la machine, en fait, on veut que ça avance. Donc voilà, en plus on offre la possibilité d'acheter des t-shirts, donc on sait trouver des partenaires, il faut trouver des gens pour faire les dessins ou en tout cas les affiches et compagnie, donc oui ça prend un peu de temps, c'est prenant mais c'est passionnant à faire.
Donc tu dis que c'est quelque chose de passionnant, tu prends plaisir à faire ça ?
Oui, on prend du plaisir à faire ça. Je veux dire, ça peut paraître rébarbatif, parfois difficile, parce qu'on est confronté à tout un tas de problématiques de logistique, puis on n'est que des bénévoles, donc on ne peut pas demander aux gens d'être à 100% là-dessus, tout le temps, etc. Donc forcément, ça peut prendre parfois des problématiques et des difficultés qui peuvent être rageantes ou difficiles. Maintenant, oui, c'est hyper plaisant, surtout quand on voit le résultat. Quand on a des gens avec lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut compter, ça facilite aussi. Moi, cette année, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont quand même énormément déchargé sur des sujets que je traitais un peu les années précédentes. Je pense à la com, je pense à la partie affiche, la partie de la gestion du traiteur, etc. etc. Ça permet effectivement de plus se concentrer sur la partie administrative parce qu'il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte et puis de pouvoir répondre aux participants en amont et leur proposer quelque chose d'un peu unique. Voilà. Mais oui, c'est hyper plaisant, évidemment. On est satisfait. Je vais être content d'être lundi matin, ça c'est sûr. Mais on est satisfait du résultat quand on voit les sourires, comme je disais tout à l'heure, sur ce qu'un stage réussit, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont souriants, ils sont vraiment contents d'être là. Et ça, c'est le prix, c'est ce qu'on récupère de l'investissement qu'on fait.
On a vu que tu animais aussi un atelier avec Antoine Padovani. Et c'est son premier atelier en tant qu'animateur, il me semble. Est-ce que c'était une volonté pour toi de pouvoir proposer en fait à des personnes comme lui de pouvoir animer un atelier sans qu'il soit instructeur ?
Alors, au-delà d'être une volonté, en fait, il y a une tradition dans le club qui a toujours été d'ouvrir la possibilité à des gens de présenter quelque chose. Être animateur, c'est pas forcément être que animateur. On peut ne pas avoir d'animation, entre guillemets, ou d'être entraîneur dans un club, mais avoir l'envie de présenter quelque chose. Et les ateliers sont l'occasion de présenter une interprétation ou quelque chose éventuellement de différent qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a toujours eu la volonté d'avoir dans nos stages plusieurs ateliers présenter ce qu'on appelle des premiers ateliers avec des gens qui n'ont jamais présenté quoi que ce soit mais qui ont travaillé pendant 6 mois, 1 an en fonction de leur disponibilité à construire quelque chose et à devenir le présenter à leur père. Et donc c'est le cas d'Antoine avec qui là je vais travailler parce qu'on a voulu avoir un double regard sur une pratique particulière des luttes germaniques. Et c'était l'occasion de confronter en fait deux regards différents entre moi, où ça fait déjà plusieurs années que je pratique et que je propose des ateliers et que je suis animateur, et Antoine qui n'est pas animateur, qui n'est pas du tout instructeur, mais qui pratique la lutte de son côté. Et on a entre nous des pratiques différentes. Il y a 800 km qui nous séparent, hein, il est à côté de Toulouse, donc forcément c'était intéressant d'avoir deux regards différents. Mais on a aussi d'autres gens, Olivier Lancien par exemple, il fait 2 ateliers ce week-end, qui vient d'à côté de Morlaix, ses premiers ateliers. Il y a vraiment cette volonté-là d'avoir des primo-ateliers sur le stage.
Quels sont pour toi en fait les critères de réussite pour un stage ?
À titre personnel, en tant qu'individu, pour moi la réussite d'un stage, ça va être les retours des participants, le fait que les gens ont vraiment pris du plaisir, que ce soit ceux qui viennent pour présenter des ateliers, s'ils repartent d'ici avec le sourire, le plaisir d'avoir partagé et d'échangé, pour moi on a déjà réussi le stage. Après, en termes d'association, et là je vais prendre plus ma casquette de président, un stage qui réussit, c'est un stage dans lequel on va être à l'équilibre au moins financièrement, que les gens vont avoir envie de revenir, que en premier lieu les bénévoles et les membres du club qui ont participé ou qui participent à ce stage ont pris le plus de plaisir et sont heureux de l'avoir fait ou d'y avoir participé, et où d'ailleurs, parce qu'on a des gens qui font les deux, qui sont bénévoles et participants. C'est pour moi là la vraie réussite du stage d'un point de vue global. Après, l'autre intérêt aussi, je pense que la réussite du stage, c'est aussi la reconnaissance des AMHR, mais aussi des institutions locales, parce qu'on est une toute petite pratique, une pratique de niche peu connue. Et à partir du moment où on a la possibilité d'avoir des équipements tels que cela et que la mairie nous fait confiance et est contente de pouvoir organiser ce genre d'événement, ça participe à la réussite du stage. Ouais.
Du coup, on peut dire que pour le moment, le stage est plutôt bien réussi. C'est le premier jour, mais ça a l'air bien parti, non ?
On peut déjà dire que le stage est réussi. Au moins sur la partie, on va dire, participants, on a 53 participants, donc 53 inscrits qui viennent un peu partout de France et d'Europe, puisqu'on a aussi des Belges qui se sont déplacés, des Allemands qui se sont déplacés. Donc ça, c'est vraiment une bonne réussite et on est vraiment content d'avoir pu avoir autant de monde. On est sur les mêmes standards que l'année dernière, c'est-à-dire un peu plus de 50 inscrits. On sait qu'on ne peut pas monter à beaucoup plus, mais je trouve que c'est bien, avec des profils complètement différents. Donc oui, c'est pour l'instant une bonne réussite. Et les premiers retours, là, après une matinée et un début d'après-midi sur la première journée, positifs. Donc les gens sont contents d'être là, ravis d'être là. On voit beaucoup de sourires, beaucoup de gens ravis d'avoir pu participer, de discuter, d'échanger. Donc oui, on va dire que c'est réussi pour le moment. Tout va bien.
On pourrait croire que les arts martiaux historiques européens sont plutôt masculins, mais loin de là. Le stage compte environ un tiers de participantes et des instructrices comme Diana, qui a notamment enseigné le Dussac, un sabre court de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance sans fourreau.
Donc pour moi, le Dussac est une arme d'entraînement en première base. La source que je vais utiliser aujourd'hui, c'est Joachim Meyer. Premièrement parce que j'aime beaucoup le style de Joachim Meyer et en plus les sources de Dussac dans le Meyer, il y a beaucoup de sont très documentées, un peu trop documentées de temps en temps je trouve, parce qu'il y a beaucoup de textes pour expliquer un mouvement très court et très bref. Pour moi le Dussac aussi, déjà ça vient à ses origines dans l'épée longue, mais aussi et pour s'entraîner avec d'autres armes de Meyer. Donc c'est un complément, voilà, pour les autres armes de Meyer, armes une main. C'est pour ça que dans le livre, on commence par l'épée longue, ensuite le Dussac et ensuite toutes les autres armes.
Tu en fais du Dussac dans ton club ou pas ?
Je n'en fais pas dans mon club, parce que je n'ai pas de club en Allemagne. Je voyage beaucoup. J'aime beaucoup m'entraîner avec d'autres écoles, d'autres clubs, d'autres groupes. Parce que c'est comme ça que je pense qu'il y a beaucoup plus d'échanges déjà entre les personnes, mais aussi entre les langues déjà, les interprétations et aussi les armes différentes. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à donner des ateliers en Dussac, c'est la première fois où j'ai fait du Dussac. Je n'avais jamais vraiment regardé dans un livre à partir comment faire le Dussac. J'ai simplement commencé parce qu'au bout d'un moment, pour moi, je stagnais à l'épée longue. Et dès le moment où j'ai commencé à faire du Dussac, j'ai complètement oublié que je devais performer, que je devais travailler sur des sources, que je devais montrer une technique spéciale. Et c'est à base de ça que j'ai réussi à mettre ce côté amusant du sac dans l'épée longue. Et j'ai réussi à m'améliorer dans l'épée longue également, grâce au Dussac.
Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais donc tu es allemande. Il y a des différences entre les clubs d'AMHE en France et en Allemagne. Toi, tu en perçois des différences ?
Déjà la langue, évidemment. Oui et non. Les structures et les hiérarchies dans les clubs allemands est un peu la même qu'ici en Allemagne, en France. L'intérêt dans les armes est un petit peu différent. Bien sûr, en Allemagne, on fait beaucoup plus de traditions allemandes, du Lichtenauer, du Meyer, Peter von Danzig et tout ça. Et ici en France, il y a aussi un petit peu plus d'intérêt dans la boxe française, dans la lutte surtout, et aussi dans les arts martiaux militaires, qui n'existe pas en Allemagne, parce qu'en tant qu'Allemand, on essaie de se distancer un petit peu de ça parce qu'on ne veut pas ramener un certain type de personne dans son club.
Tu disais que tu voyageais beaucoup, du coup, tu as fait aussi d'autres ateliers animatrices dans d'autres pays qu'en France ou en Allemagne ?
Oui, le premier grand atelier international que j'ai donné, c'était au Canada, à Vancouver. Vraiment par un hasard, parce qu'une copine d'Angleterre qui a voyagé en Amérique, on a parlé à la personne qui organisait ce stage. Alors on a parlé de moi et ils m'ont invité. Et ensuite, Covid, donc il y avait une pause de 2 ans et demi. Et ensuite en 2022, Fabrice m'a invité à donner un stage à Dijon. Et j'ai donné un stage que je vais donner ici aussi demain. Un stage sur le solo drilling avec un métronome. Et ce stage-là, m'a vraiment ouvert les portes. Il y a même Peter Regenay qui m'a invité à redonner ce stage en Hongrie. J'ai donné des stages en Islande, en Angleterre bien sûr, j'étais aux USA aussi, j'étais au Texas et à Vermont. À Vermont, j'ai donné un stage dans l'académie militaire la plus ancienne des États-Unis, ce qui était très bizarre mais très intéressant aussi.
C'est hyper impressionnant.
Merci. Et là maintenant, le stage ici, c'est le début d'un petit voyage de 4 semaines. Donc j'ai ce stage ici. La semaine prochaine, je suis à Strasbourg. Quand je rentre de Strasbourg le dimanche soir, le lundi matin, je repars en avion en Islande. Et quand je reviens d'Islande, je repars pour un stage à Vienne. Et ensuite, il y a une pause. Et il y a encore beaucoup d'autres stops cette année.
Un autre intérêt de ce stage d'arts martiaux historiques européens de Dagorlad à Pont-de-Buis, c'est son ouverture vers d'autres arts, comme ici avec Lise, qui vient de Belgique, pour mêler la danse et les AMHE.
Comment t'es venue cette idée ?
Depuis plus que 10 ans, je fais la danse folklorique et historique. Et quand j'ai fait mon début dans l'AMHE, c'était un peu le point de vue d'une danseuse. Donc c'était un peu naturel pour moi de voir tout ce qu'on fait avec l'épée, comme des pas de danse, des mouvements avec un partenaire. Et c'était à ce point-là que j'étais en discussion avec des amis sur les différences, mais aussi ce qu'on voit dans les sources de danse, qu'on voit aussi dans les sources d'épée. Et c'était à ce point-là que c'était lancé. Et j'ai trouvé une source de danse qui parle de l'épée et de l'escrime. Et c'était la première connexion que j'ai vue vraiment dans les sources. Donc à ce moment, c'était parti.
Oui, parce qu'on rappelle que l'AMHE, c'est un sport, mais c'est aussi une pratique historique, oui, dans le sens où on va chercher les sources, les traités, pour essayer de détailler au plus possible notre pratique et d'être au plus près du réel. En danse aussi, il existe comme ça des traités ou des sources.
Oui, exactement. Une des sources que j'adore, c'est Twana Arbo, c'est Orchisographie. Et c'est vraiment un livre de danse du 16e siècle qui explique dans le contexte social, où on fait aussi l'escrime de, par exemple, Joachim Meyer, comment danser. Et il utilise des contextes que les gens savent déjà, même l'escrime.
Comment tu t'es retrouvée à animer un stage de danse AMHE à Pont-de-Buis, les Quimères, dans le fin fond du Finistère ?
Il y a 3 ans, j'avais une conversation avec un Charlotte Misto du club ici qui me demandait ce que j'aime bien faire avec la musique dans le contexte AMHE. Et l'année après, elle m'a dit « Un jour, tu viens faire animer ». Un atelier ici. Et donc l'année passée, Anne-Charlotte était là en disant « J'ai entendu que tu as fini ton atelier, tu as envie de venir. » Et je suis heureuse d'être ici.
L'atelier que tu fais demain, il sera réussi à partir de... Quels sont les indicateurs pour toi ?
Que les gens s'amusent. C'est plutôt ça, qu'ils s'amusent en train de découvrir ce qu'on peut faire avec la musique. Qui n'est pas le AMHE qu'on fait normal. Donc c'est plutôt ça que je veux faire.
Tu viens de Belgique. Est-ce qu'on pratique les AMHE de la même façon en Belgique qu'en France ?
Ça dépend du club. Moi, je m'entraîne dans 2 clubs. Un qui est plutôt style Bloßfechten, très technique. Et c'est là où je suis coach, qui ne fait pas de compétition. Il y a des autres clubs qui font beaucoup de compétition et c'est que la compétition là. Donc on a vraiment la différence entre les 2 types de clubs. La grande différence que j'ai découvert en venant en France, c'est qu'en Belgique, on a les clubs avec la culture Bloßfechten, que j'ai l'idée qu'il y a moins ici en France. Je ne suis pas habituée de mettre mon veste. C'est toujours nouveau si je mets ma veste. Et c'est ici que c'est plutôt normal de mettre son veste.
Donc là, tu parles du gambison, qui est la veste de protection des gens qui font de la MHE ici. Ouais. Parce qu'effectivement, la fédération demande à ce qu'on ait tous notre gambison quand on risque d'avoir des coups.
Ouais. Nous, on n'a pas de fédération. Donc ça, c'est déjà la différence. On fait partie des autres fédérations des arts martiaux. Donc soit de l'escrime, soit les œufs d'arts martiaux. Et donc, on n'a pas de règlement uniforme pour l'assurance, pour les techniques, pas du tout. Et donc, comme ça, on a vraiment les deux types de clubs.
Et pour le côté historique, justement, là aussi, c'est varié.
Bonjour Flavien.
Bonjour.
Tu as présenté hier au stage de Dago un atelier sur justement la self-défense à la Belle Époque. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est la Belle Époque ?
La Belle Époque, c'est tout simplement une période historique qui se passe entre 1880 et 1914. Où du coup, c'est dans cette période-là où il y a eu pas mal d'avancées. Et du coup, moi je me base plus pour tout ce qui est toute l'évolution qu'il y a eu sur la boxe, sur la self-défense, ce genre de choses.
C'était ton premier atelier. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir déjà ici à Dago faire cet atelier et pourquoi en fait la self-défense à la Belle Époque ?
Alors pourquoi venir ici, c'est que j'ai été gentiment invité lorsque je suis venu l'année dernière. Moi qui n'avais jamais fait de stage, on m'a donné l'opportunité d'en faire un. Et pourquoi du coup j'ai choisi la self-défense ? Parce que de base, moi, on fait pas mal de choses. On fait de la boxe, de la canne. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais envie de présenter ? Qu'est-ce qui correspond à des choses qui me plaisent ? Et en fait, la self-défense, j'ai trouvé que c'était le plus adapté. Dans ce que je considère dans la self-défense et dans ce que j'ai présenté, il y avait une partie sur de la boxe, une partie de défense contre du couteau et une partie, du coup, où c'est plus des certaines façons de se défendre de manière un peu plus différente, on va dire.
Tu parles de différentes, comme le fait d'utiliser une casquette, un béret ou même une chaise ?
Exactement. Exactement, parce que typiquement, par rapport à l'époque, les couvre-chefs étaient plus d'actualité. Bon, après maintenant, on a toujours des casquettes, mais sous différentes formes. J'avais envie de présenter ça. Et en effet, j'ai découvert que sur une des sources donc, de Georges Dubois, qui est de 1910, il présentait un court article sur comment se défendre avec une chaise. Et je me suis demandé comment on pouvait faire ça de manière sans risque et de pouvoir quand même que l'atelier soit un peu rigolo, intéressant. Et je suis assez content de comment ça s'est déroulé, vu que personne n'a été blessé et que les gens sont bien amusés. Parce que mine de rien, voilà, quelle que soit la chaise, ça peut faire peur. En fait, le but, c'était aussi de sensibiliser à la légitime défense par rapport à... on avait vraiment une séparation entre qu'est-ce qui était autorisé à l'époque avec, du coup, les lois sur la légitime défense, comment l'appréhender et pouvoir potentiellement le réutiliser. Typiquement, pouvoir se défendre avec une chaise, si quelqu'un se fait agresser au couteau, on rentre normalement dans le cadre de la légitime défense qui est, du coup, je le rappelle, qu'il faut que ce soit nécessaire, immédiat et proportionné. Nécessaire, la personne en face a un couteau, immédiate, je vais me protéger avec la chaise, immédiatement, je ne vais pas revenir plus tard, et proportionné, il a un couteau en face de moi et il me menace.
Donc tu me disais les retours, que tu as eu de très bons retours, mais je voudrais aussi savoir toi, ton ressenti, est-ce que tu aimerais représenter cet atelier ou d'autres ateliers ? Qu'en est-il ?
De mon côté, j'ai été un peu stressé au début, mais premier atelier... envie de bien faire aussi. Et au début, ça c'est un peu stressé. Et après, c'est un peu... Je me suis détendu et tout s'est bien passé. Je suis bien content de ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a toujours des choses un peu possibles d'améliorer. Mais là, je suis vraiment content du résultat. Les gens étaient très satisfaits. J'ai eu beaucoup de retours très positifs. Typiquement, l'exercice pour se défendre avec une chaise a beaucoup plu. Parce que je l'ai fait d'une façon où ça a permis de le faire de manière sécurisée. Et ensuite, pour ce qu'il est-ce que j'envisage de refaire cet atelier ou d'en faire d'autres, je vais voir. Pour cet atelier, on m'a déjà potentiellement fait une proposition, donc je vais y réfléchir. Considérant un atelier que j'aimerais bien, si je devais refaire des ateliers, j'envisage depuis un moment de monter un atelier sur de la défense en groupe. Il faut juste que je trouve les sources qui soient adaptées pour pouvoir faire un atelier intéressant et du coup sourcé. Mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps et je pense que ça peut être très intéressant.
Des époques qui changent, d'un atelier à l'autre, et aussi des compétences qui s'élargissent, au-delà même de l'art martial et de l'histoire, à d'autres arts.
Nous sommes maintenant avec Damien. Damien, il a un créneau particulier. Tu n'animes pas une pratique martiale, toi, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu présentes ?
L'intitulé de mon atelier, c'est « Photographier les AMHE, les arts martiaux historiques européens ». Donc ça va être la photographie de sport, c'est-à-dire de l'action de sport. Pas du portrait dans le sport, mais vraiment d'arriver à figer un mouvement, qui est la difficulté de la photo de sport, et en particulier des AMHE, parce qu'on a des armes, et figer le mouvement d'une arme, c'est pas facile.
Là, je pense aussi aux photos en rafale, des photos qui sont instantanées. Tu parles de tout ça ?
Alors, en effet, parce que on est aussi un sport naissant, c'est pas vraiment le terme, mais qui n'a pas forcément les mêmes moyens que d'autres sports médiatisés. Et donc, on est souvent limité, la photographie dans ce milieu-là, souvent fait par des amateurs, des gens qui veulent bien faire, mettre en valeur leur sport, mais qui sont limités par leurs moyens. Et par exemple, le mode rafale, c'est une très bonne solution, mais si on a le matériel qui est suffisamment puissant et performant pour le faire, parce que ça peut aussi être contre-productif.
Et c'est quoi du coup l'intérêt de faire en particulier sur un stage d'AMHE de la photo ?
C'est une discipline qui est assez méconnue et qui est assez complète. En AMHE, on va très bien avoir des photographies et des techniques photographiques qui vont se rapprocher de la photo d'escrime ou de boxe. Mais on a aussi des disciplines d'AMHE qui se rapprochent de la lutte. Et on ne photographie pas de l'escrime comme on photographie de la lutte, par exemple. Là, on est uniquement en intérieur, on peut se retrouver en extérieur aussi sur certains événements. Bah, il faut composer avec la météo, avec la lumière et encore une fois avec un matériel qui n'est pas toujours adapté. Donc il faut tirer parti au mieux du matériel qu'on a. Ce qui est très difficile dans la photographie sportive, c'est d'arriver à figer un mouvement. Et un sport qui en plus bouge beaucoup. Et pas seulement en ligne comme à l'escrime olympique, mais aussi en cercle. On a des lames en acier assez importantes donc, qui peuvent générer très vite un flou si on n'a pas la bonne vitesse d'obturation. Donc c'est des choses à avoir, à avoir en tête et qui ne s'inventent pas si on n'a pas une base technique. Des petites choses qu'il faut avoir en tête et qui peuvent être intéressantes d'évoquer à l'occasion de ce stage-là pour traiter vraiment de ce qui peut permettre de hausser un peu le niveau de la photographie dans notre domaine.
Tu fais de la photographie sportive depuis combien de temps ?
Alors, je ne fais pas de la photographie sportive depuis très longtemps. J'ai fait une formation en photographie il y a maintenant 5 ans. À cette occasion, j'ai découvert plusieurs aspects de la photo que je ne connaissais pas. Bon, à la base, c'est vraiment la photographie de paysage, mon type de photographie de prédilection. Et on a dû explorer d'autres aspects de la photographie. J'ai commencé par la photographie d'un autre sport que je pratique et que j'aime beaucoup, du surf. Ensuite, j'ai eu l'occasion, en déménageant, de faire la photographie de rugby. Donc tout ça, ça s'est fait au cours des 5 dernières années. Et je le fais encore et je le ferai régulièrement parce que c'est un très bon exercice pour la photographie en général, la photographie de sport, parce qu'il faut toujours s'adapter et on maîtrise très peu de paramètres contrairement à d'autres photographies. Quoi. La photographie en studio, on maîtrise quasiment tout et c'est d'ailleurs l'intérêt. Même la photographie de paysage, finalement, on ne maîtrise pas la météo, mais souvent on préférera repousser un shooting plutôt que de s'obstiner si on n'a pas la lumière qu'on veut. On est sur un événement. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fait jamais, on n'a pas d'image. Donc il faut des images, quelle que soit la condition, il faut pouvoir s'adapter.
Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Pour cette édition spéciale de Transistor au 11e stage d'AMHE de la compagnie d'Agorlad, c'était Tiffaine et Aurélie.
La compagnie d'arts martiaux historiques européens d'Agorlad est basée à Pont-de-Bully-les-Quimers. Elle s'entraîne 3 fois par semaine et une fois par an, elle propose donc ce stage ouvert de 2 jours. Suivez-la sur la page Facebook Compagnie d'Agorlad.